Donc Jean chapitre 21, et je lirai jusqu'au début du verset 23. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes amis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait. Donc c'est l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile. Pierre, dont je reprends verset 20, « Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et la vérité que j'ai sortie de ce passage, la vérité centrale, c'est que Jésus, ressuscité, veut nous restaurer complètement avant de nous envoyer faire des disciples. Jésus ressuscité veut nous restaurer complètement avant de nous envoyer faire des disciples. Et il est question d'une pêche ici, c'est la deuxième pêche miraculeuse. Et cette pêche, bien sûr, qu'elle illustre l'évangélisation. C'est une illustration pour pêcher des hommes. Ce que Jésus avait dit à Pierre, qui ferait de lui un pêcheur d'hommes. Donc je vous propose donc j'articulerai mon message en trois points. Premièrement, nous verrons que l'évangélisation, c'est une pêche miraculeuse avec Jésus le ressuscité. Deuxièmement, nous verrons que l'évangélisation, c'est apporter les âmes et leurs fardeaux à Jésus le ressuscité. Et troisièmement, nous verrons que Jésus ressuscité vient à notre rencontre pour nous restaurer complètement, afin de nous envoyer. Donc premièrement, voyons l'évangélisation. Nous avons dans ce texte à beaucoup à nous apprendre sur l'évangélisation. Il est question de poissons, mais bien sûr c'est une illustration pour pêcher l'évangélisation qui est à attraper des hommes pour le Seigneur. L'évangélisation, c'est une pêche miraculeuse avec Jésus, le ressuscité. Donc ce récit commence, Pierre part pêcher. Il part pêcher, et comme toujours, Pierre c'est un fonceur, c'est lui qui prend l'initiative. Et il va être suivi de quelques autres disciples, et parmi eux, eh bien, il y a celui qui a écrit ce texte, un des fils de Zébédée, c'est-à-dire l'apôtre Jean. Et comme d'habitude, l'apôtre Jean ne se nomme pas lui-même. Le texte nous dit, verset 3, « Cette nuit-là, ils ne prirent rien. » Puis au matin, apparaît Jésus sur le rivage. Les disciples n'ont pas tout de suite reconnu Jésus. Jésus leur demande s'ils n'ont rien à manger. C'est quand même surprenant. Jésus a nourri une foule de 5000 personnes quand même, avec 5 pains et 2 poissons. Et là, il demande à ses disciples, « N'avez-vous rien à manger ?» Que fait Jésus ici? Et je crois que c'est déjà une application pour l'évangélisation. Jésus se met dans une position de besoin. Il se met dans le besoin. Pourquoi? Pour établir le contact avec ses disciples. Il établit le contact en émettant un besoin. Lui qui n'a besoin de rien ni de personne. Il se met dans le besoin pour établir le contact avec ses disciples qui ne l'ont pas encore reconnu. Et pour nous aussi, eh bien, c'est une bonne approche. On a fait de l'évangélisation vendredi avec un frère de Grama. Et c'est une bonne approche pour établir le contact avec les gens. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me rendre un service, m'indiquer la boulangerie ou de vous mettre dans le besoin. Des fois, on ne sait pas comment faire pour établir le contact. Eh bien, faisons comme Jésus. Rendons-nous nous-mêmes dans le besoin. En France, c'est reconnu. Les Français aiment bien rendre service quand on le leur demande. Ils s'en font un plaisir. Et c'est une bonne manière d'établir le contact avec eux pour leur apporter l'évangile. Alors, à la réponse de Jésus, eh bien, ils répondent non. Ils n'ont rien à manger. Alors Jésus va leur donner des instructions précises. Une instruction qui est de jeter le filet du côté droit de la barque. Et là, eh bien, il montre quoi? Il montre qu'il sait où se trouve le poisson. Et même à distance, il montre ainsi sa divinité. C'est lui qui a créé les poissons. Et vous avez remarqué, cette fois, sans se poser de questions, que font les disciples? Eh bien, ils s'exécutent. Et conformément à la promesse de Jésus, vous trouverez, verset 6, il leur a dit, vous trouverez, eh bien, ils ont trouvé. Ils ont trouvé au point que le filet était devenu tellement plein, il était trop lourd à tirer. Ils s'y sont mis à plusieurs pour le tirer. L'évangélisation, rappelons-nous, ce n'est pas notre œuvre. Quand nous parlons du Seigneur à d'autres, c'est rentrer dans la moisson du Seigneur et la mission du Seigneur. Le Seigneur nous a confié cette mission de faire des disciples de Jésus. Et rappelons-nous que c'est lui le maître de la moisson. Et comme c'est lui le maître de la moisson, eh bien, il sait où se trouvent les poissons humains, enfin les hommes cette fois, il sait où les trouver. C'est son projet, et donc tout projet d'évangélisation doit d'abord lui être soumis dans la prière. Pourquoi? Pour nous éviter des fatigues et des frustrations inutiles. Si les disciples n'ont rien pris la première fois, c'est probablement parce qu'ils n'avaient pas prié. Et vous avez remarqué, les disciples, ils se sont exécutés, ils ont obéi à l'ordre de Jésus, l'invitation de jeter le filet du côté droit. Mais quand même, entre le côté droit de la barque et le côté gauche de la barque, il n'y a pas une grosse distance. Et le poisson, est-ce qu'il se trouvait si près? Ceux qui étaient du côté gauche, ils n'étaient pas loin du côté droit. Mais il fallait que les disciples obéissent à cet ordre qui pouvait paraître simplet. Il fallait qu'ils obéissent pour avoir une pêche miraculeuse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est dans l'obéissance à sa parole, dans un petit pas de foi, que nous trouverons. Nous trouverons les âmes que Jésus veut pêcher pour lui. Même si nous ne comprenons pas tout, mais si nous obéissons dans un petit pas de foi à ce que nous demande le Seigneur, nous trouverons. Et donc les filets, ils ont trouvé, les filets s'étaient... Alors, les filets ne se sont pas rompus lors de cette pêche miraculeuse. Et c'est la deuxième pêche miraculeuse dont il nous est racontée ici, puisqu'il y en avait une première dans l'évangile de Luc, en chapitre 5, Et vous pourrez le lire à la maison si vous voulez. Dans cette première pêche miraculeuse, les filets s'étaient rompus. Or, ici, le filet ne se rompt pas. Aucun poisson n'a été perdu. On en connaît même le nombre exact, 153. Une indication que Dieu supervise tout le travail que nous faisons pour lui. Quand c'est pour lui, chaque détail compte, bien sûr, chaque âme compte. Il a compté les poissons, 153, à plus forte raison, il compte les âmes qu'il veut ramener à lui. Dieu supervise tout jusqu'au moindre détail, tout le travail que nous faisons pour lui, non seulement pour lui, mais aussi avec lui. Parce qu'il s'agit de le faire avec lui, parce qu'il est ressuscité. Il est vivant et croyons qu'il veut nous accompagner dans cette mission qu'il nous confie. Il est avec nous dans la mission qu'il nous confie. Rappelons-nous, c'est une parole de l'apôtre Paul, dans la parole de la Bible, 1 Corinthiens 15:58, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Quand vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, avec le Seigneur, aussi petite soit cette chose, ce n'est jamais en vain, même si c'est maladroit, même si ça ne vous savait pas par où commencer. Ce n'est jamais en vain. Le Seigneur nous attend. Il attendait les disciples sur la plage. Le Seigneur nous attend là où nous manifestons notre foi, aussi petite soit-elle. Le Seigneur nous attend là où nous manifestons des petits pas de foi, comme il attendait ses disciples sur la plage. Et c'est alors que nous nous rendrons compte qu'il avait tout préparé d'avance. Cette pêche miraculeuse, il l'avait déjà préparée. Quand nous partons, quand nous sortons évangéliser, rappelons-nous, ce n'est pas notre œuvre. Nous rentrons dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. On a prié vendredi quand on est sorti et on a prié que le Seigneur nous fasse rencontrer des rendez-vous qu'il avait organisés. Et on en a eu quelques-uns. C'était des rendez-vous divins qu'il avait prévus. On rentrait dans son œuvre. Il avait préparé les personnes. Et pour ça, effectivement, il fallait sortir. Il avait préparé ses œuvres, il a préparé les personnes aussi. Parce que nous savons qu'aller témoigner, aller apporter l'Évangile, c'est la mission de Dieu pour son Église. Alors, verset 10, Jésus demande aux disciples de lui apporter les poissons qu'il venait de prendre. Alors, tous les disciples tirent le filet jusqu'au rivage. Et ensuite, que se passe-t-il? Pierre? Eh bien, c'est Pierre. Il a plongé le premier pour aller, quand il a entendu ça, le Seigneur. Donc, il a certainement dû arriver le premier sur le rivage. Les disciples ont tiré le filet, tous les disciples ont tiré le filet dans la barque. Et ensuite, sur le rivage, l'apôtre Pierre, il s'est mouillé, il est monté sur la barque pour tirer à lui tout seul, quand même, le filet. Un filet qui était lourd. Et on reconnaît bien là l'apôtre Pierre, le fougueux, celui qui en impose, celui qui veut... Voilà. Et bien sûr qu'il aimait le Seigneur. Mais en tout cas, c'est lui qui a tiré seul le poisson, la dernière étape vers le Seigneur. Mon deuxième point, eh bien, les disciples ont apporté le poisson au Seigneur. Mon deuxième point, c'est que l'évangélisation, c'est apporter les âmes qui ont répondu présent à l'appel, c'est de les apporter à Jésus, qui est vivant, qui est ressuscité. L'évangélisation est d'apporter les âmes et leur fardeau à Jésus ressuscité. Pierre a donc tiré le filet à lui tout seul. Ça devait être très lourd. Et parfois, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être aux prises avec une personne très difficile? Peut-être un ou une collègue de travail que vous voyez tous les jours. Et vous devez la supporter. Et vous vous dites, pourquoi ça tombe sur moi, Seigneur? Le fardeau, il est trop lourd. Vous retrouvez la même personne tous les jours, personne difficile, et vous aimeriez bien qu'elle s'en aille, ou qu'on vous place peut-être ailleurs. Christ a porté le fardeau de nos péchés, le lourd fardeau, le plus lourd fardeau de nos péchés sur la croix, par sa mort sur la croix. Et lorsque nous avons cru en son sacrifice, nous avons été déchargés. Déchargés de quoi ? Du fardeau de nos péchés. Le péché, ça pèse lourd. C'est un souci, c'est un lourd fardeau. Jésus a voulu nous en libérer en prenant sur lui le poids de nos péchés, en prenant notre punition. Pour nous décharger de nos péchés, pour nous en libérer, nous avons été pardonnés et nous avons fait la paix avec Dieu et nous sommes rentrés dans sa famille lorsque nous avons cru en lui et que nous nous sommes repentis. Jésus a porté nos péchés. Et je vous pose la question, et si dans un sens, nous aussi les chrétiens, nous étions appelés à porter les péchés des autres ? Alors, des péchés des autres qui sont de lourds fardeaux pour eux, qui ne peuvent pas porter. À l'exemple de notre maître Jésus. Est-ce que ça vous choque ? Vous allez peut-être me dire, mais attends un peu. Seul le Christ, le Fils de Dieu peut porter. Lui seul était sans péché, lui seul a porté nos péchés. Lui seul pouvait porter les péchés de ceux du monde entier. Il a aussi porté les péchés de ma collègue. Il a aussi porté les péchés de ma famille. Lui seul pouvait porter ses péchés. Oui. Mais est-ce qu'il ne veut pas nous impliquer ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, porter les péchés des autres ? Regardons l'apôtre Paul, ce qu'il a dit en Galates 6, verset 2. Alors, il s'adresse à l'Église, là. S'il s'adresse à l'Église, ça veut dire que, bien sûr, que nous avons aussi des fardeaux. Il dit, Galates 6, 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire porter les péchés d'une personne ? Alors, bien sûr, ce n'est pas par moi qu'elle va être pardonnée, mais je peux porter ses péchés en la supportant déjà, même si elle est difficile à vivre, de la supporter pour un temps. Je peux supporter ses péchés sur moi, pour un temps, mais pas pour les garder sur moi, mais pour quoi faire ? Pour les apporter au pied de la croix. Surtout si cette personne n'est pas croyante, surtout si cette personne ne connaît pas Jésus, je peux apporter ses péchés au pied de la croix du Seigneur par la prière. Le Seigneur a aussi porté ses péchés et elle ne le sait pas. Et je peux apporter ses péchés au pied de la croix pour qu'elle-même s'en décharge au pied de la croix. Nous sommes des cadeaux entre les mains du Seigneur. Le Seigneur nous donne cette grâce de nous utiliser dans son œuvre. Et bien sûr, dans un sens plus large, dans l'Église aussi, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres dans la prière, quand nous savons qu'un frère ou une sœur souffre. Donc posons-nous la question, est-ce que ce n'est pas pour une raison, si telle ou telle personne difficile à vivre, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, est-ce que ce n'est pas pour telle ou telle, pour une raison, si cette personne est dans votre vie, si elle croise votre route ? Peut-être que vous êtes le seul chrétien sur sa route. Peut-être que vous êtes le seul chrétien. Toutes les régions ne sont pas remplies de chrétiens. Qui d'autre que vous pourrait alors prier pour cette personne pour qu'elle rencontre le Seigneur ou qu'elle revienne au Seigneur si elle est déjà chrétienne et qu'elle revienne à lui si elle s'est éloignée du Seigneur ? Peut-être que vous êtes le seul chrétien sur sa route. En la supportant, cette personne, et en déposant ses péchés au pied du Seigneur, nous faisons sa volonté. Nous accomplissons la loi, il s'agit de la loi de Christ, nous accomplissons sa volonté. Lui qui a dit aux disciples de lui apporter les poissons qu'il venait de prendre, c'est une illustration. Apporter les poissons, c'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous devons faire. Apporter à Jésus ressuscité nos contacts, les personnes qu'il met sur notre route, pour qui nous avons prié. Apportons-les lui dans la prière. Et alors nous deviendrons plus semblables à lui. Alors voilà, les disciples se sont exécutés, ils ont apporté les poissons au pied du Seigneur. Et Jésus, il a dressé le décor. Il avait tout préparé pour passer un bon moment au coin du feu avec ses disciples. Jésus avait tout préparé autour d'un bon repas. Et il y en a des scènes où Jésus est avec ses disciples autour d'un bon repas. On l'a vu encore tout à l'heure avec les disciples d'Emmaüs. Or là, il s'agit des apôtres ici. Hein. Il en a si souvent pris des repas avec eux. Et c'est bien lui, Jésus, ressuscité, qu'ils ont reconnu cette fois. C'est bien Jésus qui va leur distribuer quoi ? Le pain et le poisson. Est-ce que ça vous rappelle rien ? Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri toute une foule. Les disciples étaient là. Alors ça a dû leur rappeler des bons souvenirs. Le bon vieux temps, mais qui n'est pas si vieux que ça. Jean 6, hein, la multiplication des pains et des poissons. Jean chapitre 6. Mais ce décor a certainement évoqué d'autres souvenirs aux disciples. Ce décor planté par Jésus, vous avez remarqué, un repas, un brasier. Ça a dû leur rappeler un souvenir plus triste, celui-là. Et surtout à l'apôtre Pierre. Déjà, le repas, c'est en effet lors du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples qu'il leur a dit que l'un d'eux allait le trahir. Et qu'il leur a annoncé que tous ses disciples seraient scandalisés et se disperseraient. Ce à quoi Pierre a répondu quoi ? Marc 14, verset 29. « Quand tous seraient scandalisés, je ne serais pas scandalisé. » Pierre, trop sûr de lui. C'est autour de ce repas que Jésus a fait cette promesse inconsidérée. Le brasier, bien sûr que le brasier a dû aussi rappeler un mauvais souvenir à Pierre. Pierre qui n'a pas su tenir sa promesse, il a cédé à la peur lorsqu'il a commencé à renier son maître autour d'un brasier. Voir Marc, chapitre 14, versets 66 à 72. Pierre s'était repenti, mais imaginons un peu dans quel état il se trouvait. Il était, pour employer l'expression, ramassé à la petite cuillère. Il était complètement en bas. Pierre avait perdu toute illusion sur lui-même suite à son triple reniement. Et là, c'est Pierre qui a pris l'initiative d'aller pêcher. Qu'est-ce que fait Pierre ? Ben, il retourne à son ancien travail, qui était celui de pêcher des poissons. Pierre ne se croyait plus digne. Il ne se croyait plus digne de suivre son maître. Même après qu'il l'ait reconnu, même après qu'il l'ait vu ressusciter, et certainement que Pierre a dû se demander, est-ce que Jésus m'aime encore ? Il a dû se poser cette question, après son triple reniement. Mais Jésus n'en avait pas terminé avec Pierre. Bien au contraire, Jésus avait toujours un plan pour lui. Et ce plan devait passer par une restauration complète, aussi bien physique, par un bon repas, autour d'un feu, que restauration morale, spirituelle. Et cette restauration ne pouvait se faire que en se manifestant à lui personnellement. Jésus ressuscité voulait se manifester à lui personnellement. Pourquoi ? Pour le restaurer entièrement, pour pouvoir l'utiliser. Alors oui, et puis Jésus, dans son scénario, il a voulu que les choses se passent, vous avez remarqué cette pêche miraculeuse, bien sûr que Pierre l'avait vécue aussi, et cette seconde pêche miraculeuse a dû rappeler à l'apôtre Pierre la première pêche miraculeuse. Ça, c'était un bon souvenir aussi. Et c'était lors de cette pêche miraculeuse que Jésus lui avait dit qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. C'est en Luc chapitre 5, verset 10. Alors, ce souvenir de cela c'était déjà le début de la restauration pour l'apôtre Pierre. Il a dû se rappeler cette promesse de Jésus, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et puis, une fois qu'ils ont mangé, après le repas, vont suivre des moments plus délicats, plus douloureux, mais nécessaires à la restauration complète de Pierre. C'est mon troisième point. Jésus ressuscité vient à notre rencontre personnellement pour nous restaurer complètement. Alors Jésus, comment s'y prend-il pour restaurer Pierre ? Eh bien, il commence par lui poser une question. Et vous avez remarqué, il ne l'appelle pas Pierre. Pierre, à qui il avait dit « Tu es Pierre, je bâtirai mon église », il ne l'appelle pas Pierre. Il l'appelle de son premier prénom, il l'appelle Simon. Son prénom de naissance, Simon. Comme pour le rejoindre là où il est à cet instant, c'est-à-dire en bas. Comme pour le rejoindre, comme il se considère après cet échec, Simon, un simple pêcheur de poissons. Jésus l'appelle Simon, comme pour le rejoindre là où il est. aussi pour lui donner un nouveau départ, repartir à zéro, et c'est possible avec le Seigneur. C'est ce que Jésus veut faire avec Pierre, c'est ce qu'il veut faire aussi avec chacun d'entre nous, quelle que soit notre vie, notre passé. Alors Jésus lui pose une question, verset 15, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il place la barre très haute là, le Seigneur. Que fait-il? Il implique les autres disciples dans sa question, et par là il veut tester l'apôtre Pierre. Pierre, vous vous rappelez, il s'était comparé aux autres disciples. Moi, jamais je ne te renierai. Si tous seraient scandalisés, pas moi. Il s'était comparé. Puisqu'il s'était comparé, Jésus le rejoint. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples? Ce à quoi Pierre répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, en français, on ne le voit pas, mais dans le grec, lorsque Jésus demande « m'aimes-tu ?» et que Pierre répond « je t'aime », ce n'est pas le même verbe. Le verbe utilisé par Jésus pour « aimer », c'est le verbe « agapao » en grec, qui signifie « aimer d'un amour profond ». C'est ce verbe qui est utilisé dans le premier commandement, cité par Jésus, « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », Matthieu 22, 37. C'est aussi ce verbe « agapao » que Jésus utilise en posant la question à Pierre même. Puis c'est aussi ce verbe qu'on trouve dans Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ce mot « agapao » que Jésus utilise, c'est un mot qui est très fort. M'aimes-tu plus que tout? Mais Pierre va répondre par un autre mot. Ce n'est pas pour le transcrire en français, mais il va répondre par un autre mot qui est beaucoup moins fort, qui est le mot philéo, qui veut dire aussi aimer, mais cette fois ça veut dire aimer d'une simple amitié. Je t'aime bien. C'est donc un moindre degré que agapao, un sens de avoir de l'affection pour quelqu'un, mais beaucoup moins fort que agapao. Pierre, il sait qui est-ce qu'il a en face de lui. Il sait qu'il ne peut rien cacher à son Seigneur. Il sait que Jésus voit dans son cœur. Il sait que Jésus voit dans quel état est son cœur. Et Pierre, il est honnête avec lui. Cette fois, il n'en impose pas. Non, Pierre, il est honnête avec Jésus. Il sait que Jésus lit dans son cœur. Et il est honnête avec lui. Alors, son triple reniement de Jésus l'empêche de prononcer ce mot « agapao ». Je t'aime, Seigneur, plus que les autres, plus que nous t'aiment les autres, je t'aime, plus que tout. Il a renié trois fois son Seigneur, il ne peut pas dire agapao. Un mot pour aimer qui est juste trop fort. Alors il se limite à philéo. Oui, Seigneur, je t'aime d'amitié. Et Jésus lui répond, prends soin de mes agneaux. Mes agneaux, c'est un mot très affectueux pour désigner des petits agneaux. Jésus est le bon berger. Et il désigne avec tendresse tous ceux qui se reconnaissent comme des petits agneaux, faibles, et qui constituent son Église. Et Pierre a certainement dû se reconnaître dans ce terme, petit agneau. Il a vu sa vulnérabilité. Les petits agneaux qui sont faibles, qui sont exposés à tomber. Pierre a dû se reconnaître dans ce terme-là. Et c'est à lui, pourtant, c'est à lui que Jésus va confier ses brebis, ses agneaux. Qui sont comme lui exposés à tomber. Alors, si Pierre, la mission que Jésus lui donne, c'est de s'occuper de ses prends-soins, de ses agneaux dont il est lui-même, dont il fait lui-même partie, alors c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il sait alors que Jésus, non seulement ne l'a pas rejeté, mais Jésus est en train là de lui confier un nouveau ministère qui est celui de berger. Quelle grâce Jésus est en train de lui faire. Non seulement Pierre sera bien le pécheur d'homme, qu'il serait. Jésus a dit à Pierre qu'il ferait de lui un pécheur d'homme. Non seulement il sera un pécheur d'homme, c'est-à-dire un évangéliste, mais il sera aussi un berger, celui qui prendra soin des brebis. Jésus lui confie un ministère supplémentaire. Quelle grâce! Il lui confie un travail de berger, de pasteur, de prendre soin du troupeau, le troupeau qui appartient au Seigneur. Son champ d'action sera encore plus large que celui d'évangéliste, non seulement de gagner des âmes à Christ, mais aussi d'en prendre soin. Et puis, pour la deuxième fois, Jésus, il demande à Pierre, toujours en l'appelant Simon, hein, vous avez remarqué, il ne l'appelle pas Pierre, il l'appelle par son prénom de naissance, Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Verset 16. Et là, il y a une petite différence avec la première question de Jésus. C'est comme si ici, Jésus descend d'un cran. Il avait placé la barre très haute, m'aimes-tu la première fois, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci. Ici, il ne dit pas plus que nous-mêmes ceci. Il dit simplement, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Et dans cette deuxième question, Jésus emploie le même verbe aimer, agapao, tout aussi fort. C'est le même verbe que la première fois. Mais il est quand même descendu d'un cran. Il ne dit pas plus que ceci. Ce à quoi Pierre répond la même réponse. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et dans la réponse de Pierre, il emploie le même verbe que tout à l'heure, la première fois, c'est-à-dire le verbe philéo. Seigneur, je t'aime d'un amour, d'amitié, d'affection. Pas aussi fort qu'agapao. Jésus lui répond, une autre manière de dire la même chose, « Sois le berger de mes brebis. » Puis Jésus demande pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Verset 16. Et là, Jésus, il descend encore d'un cran. Il descend encore d'un cran. Cette fois, dans cette troisième question, Jésus n'emploie plus le mot « agapao », qui veut dire « aimer très fort ». Mais Jésus emploie le même verbe que Pierre, c'est-à-dire « philéo ». Aimer d'amitié, avoir de l'affection pour. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu d'amitié, puisque tu en es là. Jésus s'est mis au niveau de Pierre. Pierre n'a pas pu ni voulu exprimer plus que ce qu'il ressent. Il est resté intègre dans son cœur. Et Pierre n'a pas pu, il n'a pas voulu remonter le niveau hypocritement. Oui, Seigneur, j'étais à mort au fond du nom, il était en bas. Alors, puisque Pierre n'a pas pu remonter vers Jésus, c'est Jésus qui est descendu vers lui graduellement pour se mettre à son niveau, là où il était dans son cœur, pour mieux le rejoindre là où il est dans son fort intérieur, c'est-à-dire en bas, pas fier. Et Pierre ne change pas sa réponse. Parce qu'il sait que Jésus voit dans son cœur. Invariablement, il répond honnêtement, sans hypocrisie, « Tu sais toute chose, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Verset 17. Et le texte nous dit que Pierre fut attristé de ce que Jésus lui demande pour la troisième fois s'il l'aimait. Et effectivement, on peut comprendre cette tristesse. Quelle piètre image Pierre avait dû avoir de lui-même. Jésus a posé trois fois la question à Pierre, « M'aimes-tu ?» Ça a dû rappeler à Pierre son triple reniement. Il a renié Jésus trois fois. Qu'est-ce que vous auriez ressenti à la place de Pierre ? Pierre qui a renié son Seigneur trois fois. Que le Seigneur nous garde, bien sûr, faire ça. Qu'est-ce que vous auriez ressenti ? Quelle réponse auriez-vous attendue de Jésus ? C'est fini, Pierre. Désolé. Tu as raté l'examen. Tu n'atteins pas le niveau pour être mon disciple. Est-ce que vous auriez peut-être attendu cette réponse de Jésus ? Et ce n'est pas du tout celle-là qu'il donne à Pierre. Pas du tout. En fait, c'est tout le contraire. C'est Jésus qui s'est mis à son niveau. Comme pour lui faire entendre qu'il le comprend, pour faire résonance dans son cœur. Vous avez entendu déjà les hommes politiques dire « Je vous ai compris !» Et ça fait résonance, n'est-ce pas ? On aime bien « Ah, quelqu'un qui nous comprend, enfin !» Le seul qui nous comprend parfaitement, c'est le Seigneur, parce qu'il nous a fait. Les hommes politiques emploient cette formule pour toucher le cœur des gens, pour les gagner. Sauf qu'eux ne voient pas dans le cœur. Jésus voit dans le cœur et il nous comprend parfaitement. Et Jésus, qui a rejoint Pierre dans son fort intérieur, lui répond de nouveau, invariablement, « Prends soin de mes brebis », verset 17. Et puis Jésus annonce de quelle mort il mourrait, celle d'un martyr qui glorifiera Dieu. Alors là, je ne sais pas comment s'est senti Pierre, mais quand même, il est passé d'un triple reniement à une restauration complète. Parce que c'est seulement à ce niveau-là, c'est seulement là que Jésus lui dit « Suis-moi », verset 19. Et là, pour nous, on a vraiment une pépite. On a beaucoup d'enseignements à retirer pour nous. Vous avez remarqué, c'est remarquable de constater que Jésus n'a pas dit à Pierre « Suis-moi » lorsque Pierre lui a fait cette promesse « Jamais je ne te renierai si tous les autres te renient par moi, Seigneur. » Jésus ne lui a pas dit à ce moment-là « C'est bien, suis-moi. » Non, ce n'est pas à ce niveau-là que Jésus lui a dit « Suis-moi. » avant sa crucifixion. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Pierre comptait plus sur lui-même. Pierre s'illusionnait sur ses capacités. Or ici, dans notre texte du jour, Pierre n'a plus aucune illusion sur lui-même. Il est honnête avec lui-même et il va jusqu'à répondre à Jésus qu'il a juste de l'amitié pour lui. Il est honnête, il n'a pas plus qu'il dit ce qu'il y a dans son cœur. Il est honnête avec lui-même et il est honnête avec le Seigneur. Le Seigneur qui connaît son cœur, qui vit dans son cœur. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Jésus lui dit « Suis-moi ». Comme pour lui dire oh, « Maintenant, tu es prêt. Tu es prêt à être mon disciple. Tu n'as plus aucune illusion sur toi-même et tu reconnais tes faiblesses devant moi. Alors tu es prêt, enfin prêt pour être mon disciple parce que tu vas pouvoir compter non plus sur toi, mais sur moi. » Là, il était prêt. Quelle leçon, n'est-ce pas, pour l'apôtre Pierre et aussi pour nous. Et l'apôtre Paul, il avait bien compris cette vérité quand il disait en 2 Corinthiens 12:10 « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et on a commencé à parcourir le livre des Actes. Et quelle différence, quelle transformation chez l'apôtre Pierre. Le livre des Actes nous a montré un Pierre transformé par la puissance du Christ ressuscité. On a vu ses prédications avec de la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli de force, d'amour et de sagesse par le Saint-Esprit. Quelle transformation après cette restauration complète que lui a donnée le Seigneur. Jésus a complètement restauré Pierre et il veut faire de même avec toi, avec nous. Peut-être vous vous sentez envahi par des sentiments négatifs, des sentiments qui traversent votre cœur, des sentiments de peur, des sentiments de honte, des sentiments de culpabilité, des sentiments de tristesse, des sentiments de colère. Alors comment être débarrassé de ces sentiments? Comment en être guéri? Un premier pas vers la guérison, c'est de ne pas refouler ces sentiments lorsqu'ils sont là. Ces sentiments dont on a honte, un premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'ils sont là. D'oser les reconnaître, d'admettre qu'ils sont là et se demander pourquoi ils sont là. Alors souvent on se dit, un chrétien victorieux ne doit pas manifester ses sentiments négatifs, il doit les refouler. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas de la guérison. Jésus lui-même a connu des émotions qu'on pourrait qualifier de négatives, mais qui ne sont pas des péchés. Des émotions qui sont humaines, mais qui ne sont pas des péchés. C'est ce qu'on fait avec ces émotions qui peut devenir péché. Jésus, il a connu la tristesse lorsque son ami Lazare est mort, alors qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Il a connu la tristesse. Jésus a connu la colère devant les marchands du temple. Jésus a connu la peur à Gethsémani, sans reculer pour autant devant la croix. Et la honte et la culpabilité. Que dire de ces sentiments-là? Lui, le Fils de Dieu, il a accepté de subir la honte de notre péché, de la honte de notre culpabilité, à notre place, en mourant sur la croix. Jésus sur la croix, et peu conteste, Jésus devait être nu sur la croix. C'est ainsi que les malfaiteurs étaient cloués sur la croix, exposés. Il a accepté de subir la honte de notre culpabilité à notre place, exposé nu comme un malfaiteur pour que nous n'ayons plus à connaître la honte et pour couvrir la nudité de notre péché. Jésus a connu aussi la joie de la résurrection et la paix qui en découle, pour que nous connaissions sa joie et sa paix qu'il veut donner à tout un chacun qui se repent et qui croit en lui et qui l'aime même d'un peu d'affection, qui commence à l'aimer. Ce n'est pas encore le grand amour, mais il a un peu d'affection. C'est ce que l'apôtre Pierre avait à ce moment-là pour Jésus. Mais Jésus veut restaurer Pierre, comme il veut aussi nous restaurer. Même si tu as un peu d'affection pour le Seigneur, il peut la transformer en amour très grand. Jésus n'a pas refoulé toutes ses émotions. Sans jamais pécher, il les a connues. Alors, sachons accueillir les nôtres, sans les refouler, parce que c'est en les accueillant, ces émotions négatives, que nous pouvons alors, non pas les garder pour lui, non pas les garder pour nous, mais les déposer au pied de la croix, en toute transparence, dans la vérité, sachant que Jésus connaît ton cœur et le mien, sachant que Jésus nous comprend parce qu'il est la vérité, sachant que nous ne pouvons rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Alors, autant les reconnaître, pour mieux nous en débarrasser, en les lui apportant. Et alors, il transformera nos émotions négatives en émotions positives. Pourquoi ? Parce que lui-même, il est revenu de la mort à la vie, il est ressuscité. C'est une réalité. Et alors, nous serons prêts à être ses disciples. Le véritable disciple, c'est pas un Superman, hein, c'est pas un Superman, mais c'est quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses et qui les apporte honnêtement au Seigneur, en s'appuyant non plus sur lui-même, mais entièrement sur le Seigneur. Le Seigneur qui vit en lui, lorsqu'il a accepté. Et le véritable disciple, la fin de l'histoire est très révélatrice, c'est pas non plus quelqu'un qui se compare aux autres. C'est pas non plus quelqu'un qui se compare aux autres. Pour essayer d'être le meilleur. Mais par contre, le véritable disciple va se concentrer sur son appel qu'il a reçu du Seigneur. Son appel personnel, à suivre lui-même. La fin du récit, Pierre a regardé en arrière quelqu'un qui le suivait. Il s'agissait de qui ? Il s'agissait de celui qui a écrit cet évangile, il s'agissait de l'apôtre Jean. Et Pierre a demandé à Jésus, verset 21, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » On reconnaît là bien Pierre. La vieille tendance chez Pierre de se comparer aux autres. C'est comparer, jamais je ne te renierai, si tous t'abandonnent pas moi. Et celui-là, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Pierre et Jean sont de caractère différent. Pierre, c'est un impulsif. Il est le premier à courir au tombeau vide. Il est le premier à se jeter à l'eau, en entendant Jean dire « c'est le Seigneur ». Jean, lui, il est appelé le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui se penchait sur la poitrine du Seigneur. Il est le premier à avoir reconnu le Seigneur ressuscité depuis la barque. L'apôtre Jean, il est plus dans l'intimité avec le Seigneur. Et puis, que dire des autres ? Il y avait des autres disciples dans la barque. Ceux-là, qu'est-ce qu'on peut en dire de cela ? On n'en dit pas grand-chose. Que dire des autres des disciples qui sont restés dans la barque à tirer les poissons ? Ils ont quand même fait quelque chose. Eh bien, nous voyons là la diversité du corps de Christ. Nous sommes tous différents. Ça ne sert à rien de nous comparer les uns aux autres. Nous sommes tous différents et nous sommes tous importants. Et je vais terminer avec ce verset dans Galates 6, versets 4 et 5. Galates 6, 4 et 5. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Ce que Jésus a dit à Pierre, il le dit aussi à toi. Il le dit aussi à nous. Que t'importe. Toi, suis-moi. Amen. Je vais prier. Seigneur, tu nous connais, Seigneur. Tu t'es incarné, et Seigneur, tu connais le cœur humain, Seigneur. Tu sais combien parfois nous sommes compliqués, tortueux. Mais Seigneur, tu n'as jamais cessé d'aimer l'apôtre Pierre, qui pourtant t'avait renié trois fois. C'est toi qui as fait le premier pas, c'est toi qui as restauré Pierre, c'est toi qui veux aussi restaurer celui ou celle qui se sent en bas, qui se sent au fond du trou. Alors je prie, Seigneur, pour que, si c'est le cas de certains, que tu les rencontres personnellement là où ils sont, Seigneur. Mais avant tout, effectivement, Seigneur, je prie que s'il y en a qui n'ont pas encore fait, que chacun s'approprie ton sacrifice à la croix pour lui-même, Seigneur. Et alors, Seigneur, c'est toi qui agis en chacun d'entre nous et tu veux collaborer avec nous dans ton œuvre, Seigneur. Merci encore pour cette grâce. Tu as restauré Pierre, tu as fait de lui non seulement un pécheur d'homme, mais un berger. Et Seigneur, merci, parce que voilà, c'est ta façon à toi de restaurer. Tu donnes au-delà. Tu consoles, Seigneur, merci. Et nous te demandons, Seigneur, de te voir là où tu es, même si parfois il peut y avoir des moments où on ne se sent pas digne. Mais Seigneur, tu n'as pas attendu qu'on soit digne, on était tous indignes. Tu as fait le premier pas vers nous et tu es là avec nous. Alors Seigneur, qu'on sache vraiment être vrai avec toi. on ne peut rien te cacher, et puis t'apporter nos cœurs, nos émotions, et transforme-nous, que nous nous laissions transformer par toi, toi qui es vivant, Seigneur. Et Seigneur, utilise-nous dans ta grâce, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.